Le nombril de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour, c'est Juliana pour une nouvelle émission Le nombril de Vénus sur Canal B. Et comme chaque dimanche, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Olivier Bordeaux est un écrivain à succès. Son livre « En attendant Bojangles » paru en 2016 aux éditions Finitude est à ces jours encore un phénomène, avec plus de 800 000 exemplaires vendus et traduits dans de nombreux pays. Il y a ensuite écrit « Pactum Salis » et « Florida » chez le même éditeur, et c'est au tour de ce dernier qu'il est venu à Rennes pour une rencontre avec le public proposée par la librairie Le Fayeur. Cette rencontre s'est tenue en ce mois de juin 2021 au théâtre de la Parcheminerie et moi j'ai eu la chance de l'interviewer pour vous ici aujourd'hui dans l'émission Le Nombril de Vénus. Olivier Bordeaux, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous recevoir, mais c'est moi qui vous remercie d'être là en face de moi ici à la Parcheminerie. Nous sommes juste en train de boire un café à la terrasse. Ça vous fait quoi d'être à Rennes ?
Ah bah écoutez, je suis très heureux d'être là. C'est ma région d'origine, mais je connais très peu Rennes. Je suis venu pour une ivresse minable il y a 15 ans et j'en ai aucun souvenir.
Est-ce que c'était pour les trans ?
Non, pas du tout. C'était pour un premier de l'an. Rue de la Soif, comme tous les gogos qui n'ont pas d'imagination. Et le début de l'ivresse était très bien, c'était du whisky sec et ensuite c'était une mémoire sèche.
On va voir comment on va terminer cette interview, mais pour l'instant vous êtes au café, ici dans cette terrasse, et vous attendez en fait une rencontre tout à l'heure qui est organisée par la librairie Le Fayeur. Qu'est-ce que ça vous fait aussi de rencontrer les gens comme ça autour de, de la discussion, autour de livres, de littérature ?
Eh bien écoutez, c'est très important et c'est surtout très intéressant parce que personne n'a la même vision du livre. Quand un livre est vendu à 100 000 exemplaires, on a 100 000 versions différentes, 100 000... visage de personnages, pour Bojangles, il y a un million de châteaux différents, il y a un million d'oiseaux différents, et voilà, et donc c'est très intéressant. Certains trouvent que Florida est très bien écrite, d'autres trouvent que c'est très très mal écrit, certains trouvent ça drôle, d'autres pas du tout, enfin, donc chacun sa version, sa sensibilité, et en plus, on n'est jamais le même lecteur, en fait. Certaines personnes qui détestent Florida pourraient l'aimer dans un an et demi, et inversement, ça dépend de ce qu'on vit dans une période donnée. J'ai déjà une anecdote, la première fois où j'ai vraiment constaté ça, parce que, évidemment, c'est un sujet auquel on ne réfléchit pas, ni quand on écrit, ni quand on lit. Lors d'une première rencontre pour Bojangles, une femme dit que c'est le livre le plus drôle de l'année, je me suis amusé, j'ai ri aux éclats. Et sa voisine a manifesté son mécontentement en grommelant « non, non, non ». Donc je lui ai donné la parole, elle a dit « c'est le livre le plus triste de l'année ». Voilà. Donc pour le même texte, les mêmes mots, les mêmes virgules, l'une avait beaucoup ri et l'autre avait trouvé ça très triste. Et effectivement, maintenant ça se confirme, dès que j'ai des rencontres, je vois que les gens n'appréhendent pas les choses de la même manière. Je pense que dans Bojangles, quand quelqu'un rit, c'est qu'il a besoin de légèreté. Peut-être que ça se passe pas très bien dans sa vie et donc il voit plutôt les paillettes. Et quand il y a quelqu'un qui a une vie parfaitement satisfaisante, il essaie de chercher de la profondeur, de la noirceur et s'attache à d'autres détails. Mais c'est une théorie ridicule, comme toutes mes théories d'ailleurs.
Eh bien, est-ce que si je vous dis que j'ai senti un peu la même chose, les deux facettes, c'est-à-dire que je trouve que Bojangles était à la fois triste et à la fois doux et ça me donnait beaucoup envie de rigoler. C'est un peu les deux, en fait. Est-ce que quand vous écrivez, vous êtes entrant vous-même de ressentir ces choses.
Ah oui, évidemment. Ah bah oui, oui, j'espère que c'est le cas de toutes les personnes qui écrivent, qui chantent, qui peignent, enfin, tous ceux qui s'expriment par ce biais. J'espère vraiment. En tout cas, moi, chaque phrase est le fruit de ce que je ressens instantanément. Il y a quelque chose de commun dans les trois romans, même s'ils sont très différents, c'est que dès qu'on arrive dans une situation pénible, angoissante, triste, j'ai toujours besoin d'une pirouette humoristique, soit de cynisme, soit de fantaisie. Parce que là, pour le coup, ça répond à votre question. Mon cœur se serre, je suis un peu stressé pour mon personnage et j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui pète dans le bon sens, que j'ai envie de sourire. Et donc, c'est ce qui marchait dans Beau Jungles. Les gens disaient à ce moment-là, pour l'enterrement par exemple, c'est une scène que je redoutais d'écrire et je commençais à être ému, à avoir les larmes aux yeux. Forcément, c'est quasiment la fin du roman, donc tout ça mêlé, la fatigue. Et je me suis dit, je ne peux pas écrire cette scène sans un éclat de rire, c'est pas possible. Donc j'ai imaginé ce curé dont la mèche de cheveux se transforme en antenne pour converser avec Dieu. Et ça m'a fait un bien fou, voilà. Et je crois savoir que beaucoup de lecteurs ont apprécié ça. J'aime pas trop filer le pathos. Voilà, dès que je suis à l'orée du pathos, ça m'angoisse. Voilà, j'ai pas envie d'être l'auteur de ça.
On ne peut pas dire autant pour Florida, quand même.
Bah, écoutez, en fait, j'ai remplacé la fantaisie par la colère et le cynisme. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des moments qui sont émouvants, je suppose, mais elle a toujours une phrase qui claque. Hein. Quelque chose, sa colère efface la tristesse ou le mélo, voilà, le mélodrame. Enfin, j'espère en tout cas. Je ne sais pas d'ailleurs si ce que je ressens, si la frontière est bonne, quoi. Peut-être que parfois je m'arrête un peu trop loin, je n'en sais rien, mais j'essaie de conserver les choses équilibrées. D'ailleurs, c'est faux ce que je viens de dire, je n'essaie pas de garder les choses équilibrées. Mon esprit me dit qu'il faut que j'équilibre les choses, c'est différent.
C'est marrant parce que vous n'avez pas parlé de 12e livre. Pactum Salis.
Oui, vous avez raison, parce que les ressorts sont différents. C'est venu comme ça, c'est une histoire d'amitié contrariée. Il n'y a pas de sentiment dans cette histoire. Il n'y a pas de sentiment amoureux, il n'y a pas de dépit amoureux. Il y a un dépit amical, tout ça est moins fort. C'est de la testostérone, il ne s'agit pas de cœur, il s'agit de couilles. Voilà, c'est très beau ce que je viens de dire. J'aurais dû dire ça pendant la promo de Pactum Salis. Ça aurait été brillant. Il ne s'agit pas de cœur, mais de couilles.
C'est vrai que c'était une affaire de grosses couilles dans ce deuxième bouquin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est passé de Beau Jungles avec toutes ses émotions vers quelque chose d'un peu plus terre-à-terre où la testostérone bat son plein, pour d'ailleurs être complètement au summum au niveau de Florida.
Oui, oui. Bah, en fait, les couilles de Pactum Salis sont passées dans une seringue dont Florida, et se les injecte dans les fesses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à vrai dire. J'avais cette histoire en tête, je l'ai écrite, point. En fait, j'ai cette chance inouïe d'avoir eu le succès de Beau Jungles, et ça m'a offert une liberté éditoriale totale. Et donc, j'en ai profité. Je n'étais pas contraint de conserver le même style, la même histoire, le même esprit, et de dire, voici... Je suis l'homme de toujours les mêmes romans, quoi. C'est pas très bien formulé, ça. Je suis l'homme du même roman. Voilà. C'est pas du tout bien formulé. C'est bon, pardonnez-moi.
Thank you.
Le nombril de Vénus, aujourd'hui, l'interview d'Olivier Bourdeau qui a écrit le livre Florida.
Il y a la géographie aussi. Le premier, ça se passe plutôt à Paris, puis en Espagne. Le deuxième, on est dans les Salines. Voilà, on est dans une région qui est plus proche de chez vous, on va dire, du moins là où vous êtes d'origine. Et puis le troisième, on est à Miami. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette envie d'évasion totale?
Oui, par l'esprit en tout cas. Et aussi, je me suis rendu avec Susan pendant 3 semaines pour un voyage de noces, mais pour enquêter aussi. J'ai besoin de connaître les endroits dont je parle, pas de les connaître parfaitement, mais là il me semblait que c'était important de... En fait, c'était pas de la découverte, c'était plutôt... je recherchais la confirmation du sentiment que j'avais. On passe tous 2 heures dans notre canapé aux États-Unis tous les jours, par le biais des informations, par le biais des séries, des films, et donc on a tous une idée précise et floue de... Et Miami est une ville de caricature, mais la caricature est réelle. C'est une vraie caricature. Et je suis allé m'assurer que les préjugés que j'avais étaient les bons.
Est-ce que vous êtes allé dans les endroits qui sont dans le livre, la plage où ils font du bodybuilding, je crois que c'est ça s'appelle un 7-Eleven, où elle voit sa mère un peu vers la fin du livre, etc. Enfin, on va rentrer dans l'histoire, on va quand même vous dire 2 mots de quoi il s'agit, Florida. Eh bien, est-ce que vous avez visité ces lieux?
Oui, j'ai été non seulement humer les détails, mais il me semblait qu'il était important. Bon, alors la plage, c'est un classique du tourisme, mais comme il s'agit d'un carnet, que Isabelle n'a connu que cet endroit-là, rien n'est exceptionnel pour elle. Enfin, quand vous naissez à New York, vous ne vous extasiez pas devant des phénomènes de touristes. Donc il fallait décrire certains endroits qui n'étaient absolument pas touristiques. C'est pour ça que c'était important que je m'y rende. Et la question était...
est rendu.
Le supermarché. J'étais très content de découvrir cette vitrine de voyants qui, dans une ville blanche et fluo, avec son décor moyenâgeux et cette volonté de lire l'avenir de manière complètement baroque, ça m'a enchanté. Ça ne fait pas du tout partie des guides touristiques. Et c'est un des détails qui me plaisait, vraiment.
Un autre détail aussi, si on reste au niveau de cette soupérette, c'est les barquettes de poulet, très omniprésentes. Pourquoi faire une fixation sur les barquettes de poulet?
Eh bien, parce que tout simplement, les personnes qui font du bodybuilding avalent des tonnes et des tonnes de poulet. Ils mangent le blanc des œufs et le blanc des enfants et le blanc des parents. Sous une forme différente, car c'est un régime surprotéiné. J'ai pour ma part un cousin qui faisait la musculation et qui bouffait essentiellement ça dès le matin. Et c'était assez écœurant, à vrai dire. Mais c'est une réalité. Ils sont obligés de manger que du poulet. Parce que ça ne fait pas grossir, mais ça apporte son lot de protéines. Voilà. Donc je ne pouvais pas passer à côté, sinon je n'aurais pas été crédible.
Alors, on va parler du livre, du coup, parce que finalement, on parle d'Elisabeth, on parle aussi des rencontres qu'elle va faire au fur et à mesure de ce livre. En tout cas, ça va venir dans l'émission, vous allez l'entendre. Vous avez démarré ce livre en racontant, enfin, elle raconte, c'est la narratrice du livre, votre personnage principal, sa vie autant qu'enfant qui participe des concours de mini-miss, poussé évidemment grandement par sa mère qui s'ennuie sec chez elle avec un mari qui ressemble à rien. Comment est venue l'idée de traiter ce sujet et de commencer par ce bout-là? Parce qu'on a commencé à parler de bodybuilding, c'est la suite, mais ça parle de corps en fait.
Oui, c'est les différentes variations de l'exploitation du corps ou de ce qu'on veut en faire et de ce qu'on peut en faire. Et en l'occurrence, il y a 7 ans, un lendemain d'ivresse, je regardais la télé comme beaucoup de gens.
Vous picolez beaucoup, hein?
Je picolais beaucoup. Il y a 7 ans, je picolais.
Pardon?
Je picolais beaucoup.
C'est une blague.
Mais vous avez raison, non? C'est une très bonne blague. C'est une blague de très réelle. Oui, c'était en lendemain d'ivresse. Il n'y a que les lendemains d'ivresse qu'on peut s'attarder sur un concours de minimis comme ça. Enfin, habituellement, on zappe ce genre de choses. Mais là, je me disais que c'était idoine pour mon cerveau fatigué.
Et c'était à la télé?
Oui, à la télé, ouais, je ne me souviens plus de quelle chaîne. Et en fait, ça m'a laissé un sentiment très particulier, pas pendant des jours, hein, mais pendant quelques heures, parce que c'est un classique de montrer les enfants, faire du piano, chanter, etc. Mais là, il s'agit d'un talent, ou d'une absence de talent, mais en tout cas, la volonté de faire du tennis, un sport, etc. Là, il y avait l'acharnement dans les yeux des mères, quasiment tout le temps. Et la fierté aussi, on sent qu'elles sont perdues, ces jeunes filles. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus vicieux que de juger une enfant sur son physique. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être le ressort d'un roman. En l'occurrence, Beau Jungles n'était pas encore édité. Donc c'est une idée qui m'est restée en tête pendant 6 ans. Comme je vous le disais, j'aime bien me rendre dans les endroits, donc j'ai attendu d'avoir de l'argent et du temps, et c'était le cas l'année dernière, et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Et c'est surtout qu'en 7 ans, plein d'idées sont venues, donc le personnage existait réellement dans ma tête. Ce qui est la première fois, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, Beau Jungles c'était parfaitement improvisé, Pactum Sally c'était à moitié improvisé. Là, Elisabeth est dans ma tête et mon cœur depuis 7 ans, et elle gagne en chair, en esprit et en réalité. Parce que quand je me suis assis, j'avais le sentiment que c'était une vieille amie. Ouais. Et ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Donc c'est un sentiment très particulier. Elle existait déjà en réalité. J'ai pas besoin de... Il fallait quand même que je l'écrive, parce que sinon ça ne s'appelle pas un livre. Je peux dire oui, j'ai un personnage magnifique en tête, mais ça ne sert à rien.
Pieces and go home.
C'est l'émission Le Nombril de Vénus. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'Olivier Bordeaux, écrivain.
Alors, Elisabeth, elle pourrait avoir peut-être un autre sort, mais ses parents, et c'est le sort aussi de tous les enfants, on va dire ça comme ça, enfin, la plupart des enfants, qui sont accompagnés par des parents hystériques, notamment, vivent intensément leur moment à eux. On a le sentiment vraiment qu'Elisabeth n'a aucune connexion avec ses parents, et notamment avec sa mère, malgré qu'elle passe beaucoup de temps avec sa mère, parce que sa mère ne lui donne pas la possibilité. Cet enfant, elle aime sa mère,
mais
la question elle se pose dès le départ, est-ce que la mère aime son enfant ?
Eh bien, je pense qu'elle l'aime à sa manière, et en fait, c'est une très bonne question, parce que les deux histoires les plus atroces du roman sont des histoires vraies, qui sont inspirées de faits réels. Il s'agit des œufs de ténia au début, cette mère qui a commandé des œufs de ténia au Mexique pour les faire ingurgiter à sa fille afin qu'elle reste maigre. C'est atroce. Si je l'avais inventé, on aurait pu me dire vous exagérez, vous déconnez. Et la deuxième, c'est cette mère qui s'invente l'histoire du Botox avec sa fille. Et ça, c'est une histoire vraie. Et c'est une des histoires les plus absurdes, puisque auparavant, on essayait de gagner 15 minutes de célébrité warholienne par quelque chose de positif, briller, une œuvre d'art, une action positive. Désormais, on fait tout pour avoir son quart d'heure d'indignité, en fait. Quelle que soit la lumière, que ce soit une lumière noire ou une lumière claire, on veut être devant les caméras. Et donc, moyennant 10 000 dollars, il me semble, elle s'est accusée devant tous les Américains d'avoir botoxé sa fille à 7 ans. Et on s'est rendu compte que c'était faux. Donc, c'est un ressort très intéressant, quand même. La phrase, là pour le coup, j'ai vraiment fait un copier-coller de ce que disait cette mère pour se défendre. Je souhaite le meilleur pour ma fille, j'ai tout fait, voilà. Et c'est là tout le paradoxe, c'est de l'amour. Elle souhaite vraiment le meilleur pour sa fille, et pour elle, le meilleur, c'est être une star de télé-réalité, c'est être mannequin, c'est être comédienne, actrice à Hollywood, point barre. Et c'est la raison pour laquelle il y a une incompréhension totale. Tout au long du roman, sa mère ne comprend pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir fait tant de sacrifices pour sa fille. C'est là qu'est le vice. J'ai fait le meilleur pour toi, que veux-tu que je te dise ?
C'est terrible parce que jusqu'à la fin du livre, ce rapport avec la mère, on y croit encore possible parce qu'on a des moments vers la fin du livre dans lesquels on s'est dit peut-être il y a une possibilité quelconque qui va se présenter à nous. Mais en fait...
Non, étant donné que leur décalage est total, à un moment, effectivement, la mère dit « je regrette ». Et on apprend à la fin du paragraphe qu'elle regrette autre chose que ce que souhaitait Elisabeth. Mais il y a effectivement, pendant tout ce chapitre plutôt, une ambiguïté qui nous laisse imaginer que... Mais étant donné qu'elle a fait du mieux et elle lui a offert tout ce qu'il y avait de mieux, elle ne voit pas en quoi elle s'excuserait pour ça. Et tout compte fait, Elisabeth, tout au long du roman, se dit « bon, c'est pas si terrible ce que j'ai vécu, mais si, c'est terrible quand même ». Vous savez, tout le monde est comme ça. La théorie du pirailleur, « oh, mais pourquoi je me plains alors qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir au Nigeria ?» En revanche, cette théorie ne tient quasiment jamais, parce qu'à ce moment-là, on accepte tout, quoi. Si on se base sur ce qu'il y a de pire, eh bien, on accepte toutes les humiliations de la vie. Donc, voilà, on passe d'un... On relativise et puis ensuite on se dit mais non, c'est horrible ce que je vis. Et puis le regard des autres, des gens vont plaindre. Vous dites bah oui, j'ai raison de me plaindre. Et puis d'autres vont dire mais attends, tu te fous de notre gueule, c'est ridicule. Moi ça m'arrive tout le temps. J'ai envie de me plaindre et je trouve que c'est ridicule, quoi. Voilà. Ça dépend de l'interlocuteur qu'on a.
Elle, Elisabeth, elle est quand même très contrainte, hein, parce qu'elle est contrainte des enfants, et puis dans cette contrainte, votre pote là, qui vous suit, votre copine là, qui est avec vous là depuis des années, ben elle, la contrainte, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. À tel point, la contrainte d'être qui elle est et de l'histoire qu'elle a vécue.
Oui. Non, elle n'arrive pas à... Elle a 19 ans à la fin, hein. Donc il lui reste une longue vie quand même.
Mais dans quel état ?
Dans quel état? Oui, étonnamment, vous voyez, je suis très confiant pour Elisabeth.
Cool!
Mais ouais. Bah oui, la dernière phrase, c'est la seule du roman d'ailleurs, et d'un optimisme incroyable, je trouve. Et je ne sais pas si vous avez vu ça aussi.
Si, je me souviens que ça termine sur une note positive. Alors, je ne me souviens pas de la phrase. On ne va peut-être pas la lire, mais...
C'est dans l'esprit d'Elisabeth. C'est cette phrase qui est étincelante d'optimisme est une phrase très, très neutre.
La page d'après, c'est demain.
Voilà. Mais vous voyez, je ne pouvais pas faire quelque chose dans la guimauve avec... un optimisme plein de paillettes et du rose fuchsia partout. Ça correspond à la détermination du personnage, voilà.
Et d'ailleurs, de la chance, elle a eu quelquefois. C'est seulement qu'elle n'était pas forcément au rendez-vous pour la saisir vraiment. Il y a eu Maryland, par exemple, quand elle avait son petit ami, elle est en vacances. Ce moment-là était un moment lumineux de livre.
Exactement.
On s'est dit, franchement, là, ça y est, un avenir s'offre à cette Elisabeth qui a été tellement malmenée. Il y a un truc qui va se passer dans sa vie. Elle va aller de l'avant. Mais hélas, peut-être, et c'est ça qui est ambigu, on ne comprend pas tout à fait, même si moi je pense que ce qui s'est passé, c'est-à-dire le papa de petite amie qui est passé, etc. Moi je suis plutôt en lisant, je pense qu'il a vraiment fait ça, c'est-à-dire je crois en Elisabeth en fait,
oui.
mais ça reste ambigu.
Ça reste ambigu pas tant que ça, mais en réalité... quand il se passe, puis on le voit là avec les témoignages qui arrivent ces dernières années, on se demande si c'est vraiment arrivé, on a des doutes, on n'a pas du tout envie que ça arrive. Et là, le problème, c'est que ça n'implique pas seulement elle, ça implique sa relation. Et à partir du moment où elle l'avoue à son petit ami, c'est déjà terminé. Lui prend le parti de son père, voilà. J'essayais de retracer un peu ce que j'avais, les sentiments et les cordes que ça avait pincé chez moi en lisant tout un tas de témoignages où on ne sait jamais s'il faut le dire ou pas, et puis on doute la véracité de la vision. En plus, là, c'est derrière une vitre de douche, donc y a toute une ambiguïté, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu en lisant beaucoup de témoignages, voilà. On n'a pas envie que ça soit arrivé, on est presque sûr que ce soit arrivé, et est-ce qu'on va en parler? Si on en parle, tout s'écroule, il faut que les gens prennent parti. Tout ça est une merde sans nom, en fait.
Ouais, c'est une merde sans nom. Alors, je vais quand même éclairer un tout petit peu les auditeurs de Canal B, parce que c'est vrai que s'ils n'ont pas lu le livre, là, on passe sur quelque chose de complètement abstrait.
Oui.
C'est-à-dire qu'Elisabeth a donc cette famille première qui est une famille... qui malmène en fait cet enfant, et puis à un moment donné dans son adolescence elle a la chance d'avoir un petit ami qui a une famille tout à fait équilibrée, riche, et qui lui donne vraiment la possibilité de vivre autre chose. Seulement voilà, il y a effectivement un moment où on ne sait pas si le papa il est dans une sorte de projection malsaine sur cette Elisabeth, et là les choses elles se gâtent, quoi. Mais elles se gâtent pour une fois encore retomber sur un autre moment lumineux de livre, qui est sa rencontre avec Alec.
Vous avez parfaitement raison, mais je voulais dire, effectivement, cette famille lui offre une place, un cœur, mais c'est surtout que tout au long du roman, ce corps qui est très beau, qui devrait être une chance inouïe, se transforme sans cesse en malédiction, tout au long du... C'est-à-dire que chacune de ses qualités, son intelligence est niée par sa mère et sa beauté est mise en valeur d'une mauvaise manière. Donc elle a deux atouts incroyables, elle est très belle et intelligente, et ça se transforme en enfer, voilà. J'aime bien l'idée de transformer des bénédictions en malédictions. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et ensuite, concernant Alec, effectivement... Elle le rencontre complètement par hasard et elle a plutôt l'habitude d'envoyer bouler les gens, et Alec lui résiste, et il y a une histoire d'amitié entre eux, et c'est un artiste qui, à l'époque, au moment de leur rencontre, est un artiste raté, c'est comme ça qu'il se définit, a une idée, c'est de lui faire faire de la musculation et de photographier tous les jours la transformation de son corps devant le même décor, et avec la même pose.
Eh oui, eh bien, je crois que notre entretien va bientôt toucher à sa fin. C'est bien dommage c'est pour moi. Ben oui, oui parce que je vois les gens de Le Fayeur qui commencent à nous tourner autour. D'accord. Donc peut-être, effectivement, nous allons être obligés de nous quitter. Mais toujours est-il que son corps, jusqu'au bout, la transformation avec ses témoignages photographiques de la part de cet artiste Alec, des choses qui se sont passées, d'autres rencontres. Il y a à un moment donné une exposition effectivement sur Elisabeth. C'est-à-dire qu'on a basculé dans le monde de l'art contemporain, à un moment donné, dans ce livre. Et finalement, ce corps, tel qu'il est, et aussi avec toute son histoire, va quand même trouver une place dans l'espace public.
Ah ben évidemment, enfin son, en fait, le corps qu'elle subit, là, l'expose volontairement et il devient une œuvre d'art. C'est le seul moment où elle a l'illusion de dominer son destin. Et une œuvre d'art qui se vend très cher, avec beaucoup de succès. Et effectivement, la société dans laquelle on est a plutôt tendance à transformer les corps en œuvres d'art. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux.
Je voulais savoir, alors, les gens qui n'ont pas encore lu le livre, pourquoi est-ce qu'à votre avis, ils devaient le faire?
Bah, écoutez, alors, parce que c'est mon meilleur roman.
C'est ce que vous pensez, vous?
Ah oui, clairement. Et de loin. Comme c'est peut-être le dernier, voilà, ce sera mon meilleur roman. Oh,
j'allais vous demander quels sont les projets futurs, alors vous n'avez pas encore...
Non, je plaisante, j'en sais rien. Non, j'ai plein d'idées, mais je ne me suis pas mis au travail. Je suis paresseux.
C'est une belle qualité, ça, non?
Ça dépend du point de vue de qui.
c'est l'émission Le Nombril de Vénus. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Canal B. Ça tombe très bien, Caroline, que tu me dis que ton métier n'est pas de répondre aux questions. Alors, c'est quoi ton métier ?
Bonjour, donc je suis Caroline de la librairie Le Fayère. Mon métier, c'est d'organiser les événements de la librairie Le Fayère, aussi bien les rencontres et les dédicaces qui se passent à la librairie, mais aussi tous les événements culturels qui se passent en dehors de la librairie, à l'Espace Ouest France, au Théâtre de la Parcheminerie, au TNB, etc., etc.
C'est un chouette métier et je pense que vous étiez en train de trépider pour que les rencontres reprennent, que les écrivains viennent et que le public soit au rendez-vous.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. On a été un petit peu en stand-by pendant ces derniers mois. Alors, c'est bien parce que ça nous a permis de nous poser un peu. Mais oui, on avait très, très hâte et de rencontrer les auteurs, les éditeurs et aussi notre public.
Toutes les librairies ne proposent pas ça. Mais vous, vous le proposez. C'est quoi le secret ? Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler à ce point-là autour du livre ?
Quand Dominique et Valérie ont rejoint la librairie Le Fayère, ils ont vraiment souhaité faire de ce lieu un lieu de vie et pas seulement un commerce. C'est ce qui a fait notre succès et c'est aussi pour ça qu'on propose de très nombreuses rencontres.
Des rencontres comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes au Théâtre de la Parcheminerie et on va rencontrer Olivier Bourdeau pour son livre « Florida ». Une personne comme lui, qui d'ailleurs habite à l'étranger, quand on les fait venir, etc., est-ce que c'est difficile ?
Est-ce que c'est difficile ? Oui et non. Non, parce que ce livre-là, « Florida », c'est un livre que nous sommes très nombreux dans la librairie à avoir aimé. Et donc, quand on est passionné, qu'on a beaucoup aimé un livre, finalement, les auteurs sont contents de venir en discuter avec nous.
On est en train de parler, la rencontre a déjà eu lieu. Comment s'est-elle passée ?
Ben, c'était très bien, d'autant que c'était la première rencontre après le confinement. Donc c'était notre toute première fois. Et de retrouver nos lecteurs, les auteurs, dans un lieu aussi magique que la Parcheminerie, ça a été un vrai plaisir.
À savoir que c'est un auteur vraiment à succès, hein, parce que son premier livre, En attendant Beaujangle, a fait un succès planétaire. Ça lui a amené pendant 2 ans à sillonner la planète, à rencontrer du monde. C'est devenu une BD, c'était adapté au théâtre et un film qui va sortir au mois de février. Et pourtant, il n'y a pas la grosse tête.
Oui, c'est ça. En fait, déjà, en attendant Beaujangle, on l'avait beaucoup, beaucoup aimé. Son deuxième, les avis étaient un peu différents, ça dépendait des libraires. Et sur ce troisième opus, c'est un vrai succès en librairie. On l'a tous adoré. On n'a plus la question.
C'est quoi ? Il n'a pas la grosse tête.
Ah non, il n'a pas du tout la grosse tête. Et pourtant, ses ouvrages sont quand même assez durs. Et il est assez en décalage par rapport à ce qu'on peut ressentir quand on lit ses livres.
D'ici l'été, peut-être que les rencontres vont se ralentir. Mais pour mieux venir avec des nouveautés à la rentrée, j'imagine.
Et oui, 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 nous sommes au mois de juin et donc là, nous, on commence à avoir les livres de la rentrée littéraire. Donc, on les lit tous et on commence à dessiner notre programmation à la fois pour les romans, les essais, les bandes dessinées. Donc, on vous prépare ça pour le mois de septembre.
Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il faut se déplacer pour venir rencontrer les auteurs autour d'une rencontre comme celle-ci que vous proposez ?
Ah, parce que c'est plus chaleureux déjà, et puis si vous avez envie de discuter plus en direct avec l'auteur, bah, c'est plutôt sympa de le retrouver après la rencontre autour de sa dédicace. C'est plus humain, moi je trouve.
En règle générale, les auteurs, ils aiment ça ?
Oui, ils aiment ça. Certains sont timides, mais oui, c'est un exercice qu'ils aiment bien, ouais. Ouais, ouais.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B. Rendez-vous dimanche de 11h à midi au 94 MHz. L'émission elle est également disponible en live ou en podcast sur canalb.fr. Allez, bon dimanche. Bisous. Bye.